Chapitre 9. Il y a quelques années, la directrice de cet hôtel pour personnes âgées et résidence médicalisée du Colorado où je vis et où j'écris ses mémoires, une femme merveilleuse du nom de Marie Pfalzgraf, m'a demandé de tenir le rôle du conférencier invité du mercredi dans la salle commune et de faire un petit discours sur l'alpinisme. C'est ce que j'ai fait. Un petit discours, 7 minutes, montre en main, devant 6 autres pensionnaires. Je leur ai surtout parlé de l'escalade de nuit dans les Andes et l'Antarctique et de la beauté du ciel étoilé, avec l'aurora australis qui chatoyait et dansait en rideaux de lumière au pôle sud. Mon maigre public, composé de mes contemporains, ne m'a posé que 2 questions. Howard Herbert, surnommé Herb, mon plus fidèle adversaire au domino, m'a demandé « Où avez-vous perdu ces 2 doigts de la main gauche, Jake ?» J'ai deviné qu'il voulait m'interroger depuis longtemps, mais qu'il était trop poli pour le faire. « En Alaska, » ai-je répondu. Je ne suis pas entré dans les détails des 9 jours passés dans une grotte de neige à 4800 mètres d'altitude, 9 jours qui avaient coûté la vie à 2 de mes camarades d'escalade. Madame Haywood, qui, je le crains, était déjà perdue dans les brumes d'Alzheimer, m'a demandé « Vous pouvez escalader des montagnes en dormant, je veux dire dans votre sommeil ?»« Oui, » ai-je répondu sans hésiter. Je le savais parce que jusqu'à ce jour, je n'ai aucun souvenir de nos 45 minutes d'escalade jusqu'au col Nord, aux petites heures du jour, ce mercredi 20 mai 1925. Je dormais en grimpant. Je me réveillais d'un coup sur la paroi abrupte, quand ma tête et mes épaules émergèrent au-dessus de l'épaisse couverture nuageuse. J'eus la même impression que si j'avais soudain fendu l'eau pour me retrouver à l'air libre. Mon Dieu, c'était magnifique. Si le dernier croissant de lune était encore caché quelque part derrière les arêtes nord et nord-est de l'Everest, le sommet de notre montagne bien-aimée, autant que haïe, et son plumet de neige omniprésent était merveilleusement éclairé par l'intense lumière des étoiles. Même quand, étudiant, j'étais parti grimper dans l'ouest des États-Unis, à des centaines de kilomètres de la civilisation, je n'avais jamais vu d'étoiles aussi brillantes, ni aussi nombreuses. Même au fin fond des Alpes, lorsque j'avais bivouaqué sur un pic, protégé des lumières des villes ou des fermes par d'innombrables autres sommets, elles ne m'étaient jamais apparues plus scintillantes. Ce ciel himalayen n'avait pas d'équivalent. La Voie lactée s'arquait au-dessus du sommet de l'Everest comme une route solide traversant le ciel nocturne. Le nombre et la clarté des étoiles ne diminuaient pas près de l'horizon. Il y avait seulement une brusque séparation entre les milliers d'étoiles et les centaines de champs de neige, glaciers et sommets illuminés. Le vent était tombé. Pour la première fois depuis des jours, l'air était immobile. Les cimes, les Changtse, Choga, Makalu, Lhotse, Amadablam, Lola et d'autres que je ne réussis pas à identifier dans mon état d'épuisement semblaient suffisamment proches pour être cueillis comme des échinacées blanches. Quand nous atteignîmes le haut de l'échelle de corde mouvante et posâmes le pied sur l'étroit rebord de glace du col Nord, je m'aperçus que le diacre n'était pas avec nous. Avait-il chuté pendant que je grimpais dans mon sommeil? Lui avait-on tiré dessus?
Il est resté en bas pour accrocher les charges,
m'expliqua J.C.
Les accrocher à quoi? À la corde continue passant par les poulies, reliée à la bicyclette. Vous avez oublié? C'est par ce moyen que nous allons hisser la douzaine de sacs que vous avez trouvés au camp 3.
Je m'obligeais à me réveiller et les souvenirs me revinrent. Quand le diacre avait dit qu'il resterait en bas de la paroi et attacherait les charges jusqu'à ce qu'elles aient toutes été remontées, j'avais trouvé ça dingue. N'importe quelle boche pouvait entendre le bruit de la corde et des poulies, saisir le diacre dans le faisceau d'un projecteur ou d'une puissante torche électrique depuis le camp 3 et lui tirer dessus avec un des fusils en leur possession. Mais je n'avais pas réagi. J'étais trop occupé à me rappeler comment fixer le jumard aux cordes, relâcher la gâchette pour le faire glisser vers le haut et me hisser avec mon trop lourd paquetage sur les 30 derniers mètres de l'échelle de cordes sans basculer en arrière dans le brouillard. Nos crampons et les éclats de glace qu'il soulevait étincelèrent à la lumière des étoiles, alors que JC, Passang, Reggie et moi nous hâtions le long de la corniche glissante, vers l'endroit où Jean-Claude avait fixé sa drôle de bicyclette. J'eus l'impression d'être dans un rêve. À cause du poids des charges que le diacre accrochait à la corde dans les nuages mouvants en bas, JC, Passang, Reggie et moi dûmes nous relayer sur la bicyclette grue. C'était épuisant. L'un pédalait, deux autres lui faisaient signe de s'arrêter le moment venu, se penchaient vers le précipice et utilisaient leur piolet pour attacher la charge et la ramener vers le rebord, tandis que le quatrième la détachait et la portait ou la tirait vers le côté opposé de la corniche. Cet intense effort dura presque une demi-heure. Puis il y eut quatre pressions rapides sur la corde, le signal préétabli du diacre nous indiquant que toutes les charges étaient hissées, qu'il coupait la corde en bas et montait à son tour. Nous récupérâmes la longue corde, l'attachâmes à l'un des sacs à dos, nous assurâmes que toutes les charges étaient bien arrimées en retrait de la corniche, puis nous retournâmes en haut de l'échelle de corde pour patienter. Après une attente infinie, durant laquelle nous sentîmes l'échelle et les cordes fixes se tendre et bouger dans nos mains, comme si un gros poisson y était ferré, mais sans jamais savoir s'il s'agissait de notre ami ou de 10 Allemands grimpant vers nous en bas dans le nuage, le diacre émergea du brouillard, escalada les 10 derniers mètres dans l'air dégagé, laissa tomber l'énorme rouleau de cordes fixes qu'il avait remonté avec lui, et se hissa laborieusement au-dessus du rebord où nous l'attendions, main tendue pour l'aider.
« Est-ce que nous tirons l'échelle derrière vous ?» demanda Reggie.
Encore trop fatigué pour parler, le diacre secoua la tête. Un instant plus tard, après avoir inhalé un peu d'air anglais, il expliqua.
« Laissez-la en place. J'ai apporté une hache et deux hachettes du camp 3, qui sont dans une des charges. Quand les Allemands commenceront à grimper à l'échelle, demain matin, nous attendrons. Attendrons qu'il soit suffisamment haut, puis nous la sectionnerons d'ici. » C'était donc pour ça qu'il avait remonté la corde fixe que nous avions installée pour nous servir de prise de main tout le long de la section verticale, et en particulier à côté de l'échelle de corde. Sans elle, il n'y aurait plus rien à quoi se raccrocher si l'échelle cédait soudain.
« Nous devrons poster une sentinelle ici toute la nuit, » dit Jean-Claude. « Les Boches peuvent monter à tout moment. »
À moins qu'ils ne rusent en taillant des marches dans la pente et sur le mur de glace.
« Non, » répondit le diacre. Il s'interrompit le temps de réguler son souffle avant d'ajouter
« Je ne crois pas qu'ils monteront ce soir. C'était si nuageux en bas ces deux derniers jours que je ne suis même pas sûr qu'ils aient vu l'échelle et les cordes fixes.
Mais ils suivront nos empreintes qui y mènent, » dit Passang.
Le diacre eut un hochement de tête fatigué.
Exact. Mais pas avant qu'il fasse jour, à mon avis. Et Siegel enverra quelqu'un sur l'échelle pour la tester.
Vous êtes donc certain qu'il s'agit de Siegel ?
Demanda Reggie.
Siegel, ou un type dans son genre. Ça ne change pas grand-chose. Ce sont des alpinistes et des fanatiques de l'extrême droite. Espérons seulement que leur fanatisme politique surpasse leur bon sens de grimpeur. Mais pas de sentinelle ce soir. Nous allons porter autant de charges que possible de l'autre côté du col jusqu'au camp 4. Essayez de nous réchauffer et de dormir un peu. C'est un risque calculé, mais nous avons tous besoin de repos.
Mais si Siegel et ses tueurs montent cette échelle de corde ce soir,
commençai-je. Heureusement, le diacre m'interrompit. Je détestais entendre ma voix trembler comme ça. Il posa la main sur mon épaule.
Nous sommes déjà trop fatigués, Jake. Nous avons passé 3 jours et 3 nuits à cette altitude, presque sans dormir. Et nous devrons recommencer à grimper demain matin, quel que soit le temps. Je propose donc qu'on dorme maintenant. Et on s'occupera des Allemands demain matin, quand ils tenteront de monter.
Personne ne dit rien pendant un instant, puis nous hochâmes la tête l'un après l'autre.
Reggie, docteur Passang, reprit le diacre. Si vous voulez bien emporter ces 2 charges au camp 4 et installer nos sacs de couchage là-bas, vous en trouverez d'autres à l'intérieur de ces ballots en cas de besoin. Le réchaud UNA est dans celui qui porte le numéro 1. Il faudrait le sortir ce soir et l'installer dans le vestibule de la tente, même si nous ne l'utilisons pas avant demain matin.
Passang, vous pourriez aussi enrouler des centaines de mètres de cordes que nous avons récupérées et les porter au camp 4. Laissez-les à l'extérieur d'une des tentes avec toutes les charges que vous pouvez tirer jusque là-bas.
Puis, se tournant vers nous, Jake, Jean-Claude, je vous propose de retourner avec moi à ce magnifique monte-charge à pédales. Nous allons couper toutes les attaches, retirer toutes les ancres et les piquets, et tirer ce monstre de métal jusqu'à cet endroit de la corniche.
Pourquoi faire ? Nous avons déjà coupé la longue corde qui passait dans la poulie.
Pourquoi apporter l'engin ici?
Parce que nous n'avons pas d'huile bouillante sous la main, répondit le diacre.